la nation démocratique, une idée neuve pour 2020. On en parle avec notre invité David Jaïz, enseignant à Sciences Po, auteur de Slow Démocratie chez Alary Édition, où il invite à la réhabilitation des nations comme forme politique capable d'abriter démocratie, liberté individuelle, cohésion sociale et territoriale. Face au désordre provoqué par la mondialisation, il propose une reprise en main dans le cadre des nations. Bonjour David Jaïz.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. La nation et la démocratie, deux idées pas vraiment neuves pour un penseur nouvelle génération, aurait-on tendance à penser. La première, la nation, et pour beaucoup, et vous en faites le constat d'ailleurs, une idole dépassée dans le crépuscule est venue. La seconde, la démocratie, est sujette à une défiance sans précédent. À 29 ans, c'est votre âge, je crois, l'une comme l'autre, elles vous font toujours rêver, ces idées, cette idée démocratique et cette idée nationale.
Alors, rêver, je sais pas si c'est le mot, mais effectivement, vous l'avez dit, la démocratie traverse une crise sans précédent. On sait désormais qu'elle est mortelle. Valéry disait « les civilisations sont mortelles à l'issue de la Première Guerre mondiale ». Aujourd'hui, on peut dire « la démocratie est mortelle » et on voit dans un certain nombre de pays un glissement autoritaire qui parfois d'ailleurs ne se fait pas du jour au lendemain, mais qui se fait progressivement. Petit à petit, on se déshabitue en quelque sorte à la culture de la démocratie. Et le livre que j'ai écrit, c'est un livre qui essaie justement d'apporter des solutions concrètes pour revitaliser ce bien le plus cher qu'est la démocratie, et ça passe en partie effectivement par la nation démocratique.
Donc on n'a pas tant besoin de nouveaux concepts, de nouvelles idées, on peut reprendre des vieilles idées et les réanimer, les réhabiliter, leur redonner du sens et du contenu.
Alors vous savez,
ce que vous essayez de faire.
Une nation, c'est pas simplement un concept ou une idée, c'est une forme politique, c'est comme une maison. C'est ce dans quoi on vit collectivement. Et les architectes vous disent que des maisons, des formes de maisons, il n'y en a pas tellement. Il y a l'igloo, il y a la maison romaine qui est à peu près la même depuis plusieurs siècles. Et s'agissant de la politique, c'est pareil, il n'y a pas tellement de formes politiques. Moi, j'ai regardé dans l'histoire les différentes formes politiques. Vous avez la tribu, qui n'est pas une forme politique, qui est une forme pré-politique. Vous avez la cité. Là, c'est une forme politique un peu plus intéressante, puisque les premières expériences démocratiques se sont épanouies dans des cités, et très vite, les cités ont dégénéré dans des empires beaucoup plus autoritaires. Et enfin, vous avez la nation, et celle que je défends, la nation démocratique, apparue à l'issue de la Révolution française et des révolutions sœurs. Et il me semble que la nation, c'est la seule forme politique parmi celles que j'ai citées, qui fait coexister ces trois biens sociaux également désirables, que sont la démocratie, c'est-à-dire l'autogouvernement des hommes par eux-mêmes, la liberté civile et, on en parlera peut-être, la redistribution sociale.
Oui, et on reparlera aussi des autres formes supranationales existantes aujourd'hui, à commencer par l'Union européenne, qui ne vous semble pas être totalement la bonne échelle. Vous nous direz pourquoi. À mes côtés, je vous présente Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, qui lance une collection annuelle de recueils de textes parus dans la presse internationale, de penseurs qui comptent autour d'enjeux qui montent. 20 penseurs pour 2020 regroupent des contributions d'auteurs que vous avez souvent eu l'occasion d'entendre à la grande table, comme Eva Illouz, Barbara Stiegler, Peter Singer, Armut Rosa et bien d'autres. Bonjour à vous Martin Legros.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'était ça le projet, faire émerger un peu d'autres pensées que nos pensées franco-françaises ou nationales, montrer qu'il y a, est-ce qu'il y a d'ailleurs des idées dont on débat partout de la même manière pour vous aujourd'hui?
Oui, vous l'avez dit, l'idée c'était d'ouvrir un peu la fenêtre parce que avec le sentiment que le débat était un peu franco-français et fermé sur des enjeux, la laïcité, la gauche et la droite, alors que le monde bouge beaucoup et que les idées bougent. Et donc oui, c'était d'aller voir ailleurs, d'aller voir aussi chez des générations qu'on entend peu, pour voir quelles sont les idées fortes du moment. Alors la démocratie, qui est le sujet de David Jaïz, est au cœur de nombreuses réflexions, mais je dirais plutôt sous un mode un petit peu d'inquiétude vis-à-vis de ces métamorphoses contemporaines, des constats qu'on peut faire du fait que la démocratie dans les 30 dernières années n'a cessé de s'étendre, mais en même temps elle a créé une forme de cynisme et d'insatisfaction, de mécontentement, comme si elle ne suffisait plus. Et ça, je suis content de discuter avec David Jaïz de ce sentiment qui me semble très diffus, qu'un politologue comme Kratsev, par exemple, politologue bulgare, prend très en compte en prenant acte du fait, je trouve ça très juste, que la démocratie ne se meurt pas, mais on a eu dans les 30 dernières années des grands mouvements de ce qu'il appelle la démocratie des places. Et ces mouvements, Occupy Wall Street, les indignés récemment en France, les Gilets jaunes, ces mouvements ont puissamment mobilisé les peuples et les sociétés civiles. Et pourtant, note-t-il, ils n'ont pas produit de changements notables en termes de conception de la démocratie. Ils ont plutôt même échoué. Et c'est en mesurant peut-être ces échecs que l'on pourra peut-être réinventer la démocratie aujourd'hui.
En tout cas, on voit dans cette démocratie des places, comme il l'appelle aussi, cette question des échelles qui est très importante aujourd'hui, du cadre de ce renouveau. Parmi ces penseurs, donc, vous l'évoquez, quelques penseurs de la démocratie, comme le philosophe américain aussi Michael Sandel, le Ghanéen Anthony Appiah, ou encore Ivan Krastev, politologue bulgare que vous venez d'évoquer, et qui avait participé à un ouvrage collectif, L'âge de la régression. Nous l'avions reçu à cette occasion en 2017 sur cette défiance à l'égard de la démocratie aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter.
Et on a cette situation paradoxale où les gens sentent qu'ils sont sans pouvoir et que tout le pouvoir est dans les mains des élites. Et les élites disent que, ben non, nous, on n'a pas de pouvoir. Et vous savez pourquoi les gens n'ont plus confiance à cette élite méritocratique? Parce qu'ils croient que l'élite a une porte de sortie, toujours. Alors que le peuple, lui, n'a pas de porte de sortie. Donc, les populistes réussissent à avoir beaucoup de soutien.
Non parce
qu'ils promettent de résoudre les problèmes. Mais leur message principal, c'est on va être avec vous. On n'a nulle part, nous, où aller.
David Jaiz, quand vous entendez ces mots d'Ivan Krastev, cette idée de situation paradoxale aussi dans laquelle nous sommes, comment vous interprétez cette situation? Pourquoi les gens, à vos yeux, n'ont plus confiance en cette élite démocratique? Pourquoi le peuple, pour vous, se sent trahi par ce qui se joue aujourd'hui?
Bah, il est vrai que la mondialisation depuis 30 ou 40 ans a pu accélérer un phénomène que d'aucuns ont appelé la sécession des élites, c'est-à-dire le sentiment finalement que il y a une petite fraction de la population qui n'appartient plus au cadre civique et au cadre collectif et qui s'inscrit dans des sociabilités transnationales. On a parfois des élites économiques ou culturelles qui sont plus à l'aise avec leurs homologues de New York ou de Londres qu'avec un pic. Et c'est vrai que cette sécession des élites alimente une forme de défiance, surtout à l'heure où toutes les organisations collectives comme les syndicats, les partis sont en crise, les églises aussi bien sûr. Et au fond, c'est ce que je dis dans le livre, le cadre national, c'est la dernière matrice collective vraiment forte à laquelle les gens se raccrochent.
Alors dans cet essai, Slow Democracy, vous en repassez par l'histoire. Pendant 40 ans, vous le rappelez, on a chanté les louanges de la mondialisation heureuse. Puis il y a des dents qui ont commencé à grincer, à juste titre, parce que l'inattendu, j'ai pas dit l'imprévisible, est arrivé, ou plutôt l'impensé, une triple crise financière, celle de 2008, démocratique et crise écologique. Comprendre ces crises, penser aussi les remèdes, c'est à ça que vous vous attelez dans cet ouvrage. Juste, David Jaiz, demain, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, le Brexit sera effectif, Londres va reprendre le contrôle de sa souveraineté. Comment vous analysez ce moment-là, cette séquence politique qui a 3 ans et demi par référendum? Est-ce que vous diriez que les Anglais ont repris en main leur destin?
Alors moi, je sous-titre de votre livre. Je ne suis pas aruspice, je ne sais pas lire dans les mares de café, mais ce qui est certain, c'est que on a eu le sentiment pendant 3 ans, spectacle assez désagréable, de voir une grande nation, le Royaume-Uni, qui n'arrivait plus collectivement à résoudre un problème de politique publique majeur qui était la sortie de l'Europe. On voyait des élites divisées, il suffisait d'observer les débats parlementaires pour s'en rendre compte, et c'était triste de voir cette grande nation effectivement passer par toutes ces turpitudes. Aujourd'hui, il y a un choix clair qui s'est exprimé, puisque Boris Johnson a été reconduit triomphalement après les élections. Et la seule chose dont je suis certain, parce que l'avenir est très difficile à prédire, c'est que désormais la feuille de route est claire et les Britanniques ont tranché.
Mais vous voyez dans le Brexit plutôt un symptôme qu'un remède?
Je vois dans le Brexit la conséquence peut-être pas logique, mais prévisible de 40 années de désordre économique, c'est-à-dire d'une mondialisation mal maîtrisée où les inégalités sociales se sont creusées, les inégalités territoriales aussi. Et vous disiez tout à l'heure les trois crises, effectivement, il y a une relation de parenté étroite entre la crise financière de 2008 et la crise démocratique dont nous parlons, puisque l'austérité qui a été mise en place en Europe dans les années 2010, elle s'est accompagnée au Royaume-Uni d'une politique d'exemption fiscale pour la place financière de Londres, décidée par David Cameron, qui a pu alimenter, notamment dans les régions du nord désindustrialisées de l'Angleterre, le sentiment d'être left behind, c'est-à-dire laissé pour compte, laissé derrière. Et ces fractures ont mené, en quelque sorte, à cette insurrection électorale qu'a été le Brexit.
On parle du Brexit avec beaucoup d'inquiétude depuis 3 ans et demi, des Anglais vivant là-bas, ici les commentateurs et les analystes. Vous, David Jayes, est-ce que vous voyez cette décision démocratique, ce référendum et ce qui va suivre, c'est-à-dire cette souveraineté retrouvée pour le Royaume-Uni, comme un moment quand même désirable, comme un choix qui peut aussi rouvrir et redonner place à l'optimisme par cette reprise en main des Anglais, de leur destin, ou est-ce que vous n'y voyez aussi que source d'inquiétude ?
En réalité, tout va dépendre de la politique économique et des choix qui vont être faits par le gouvernement. Moi, je pense que c'est toujours bien que la démocratie s'exprime. C'est le premier principe à respecter quand on est démocrate. En revanche, j'ai une source d'inquiétude qui est le fait que si le Royaume-Uni ne conclut pas avec l'Union européenne un accord préférentiel, il risque de ne pas avoir d'autre choix que de devenir une sorte de paradis fiscal. Et ce faisant, Londres va vraiment devenir ce qu'on appelle déjà une Singapour sur Tamise. Et les fractures sociales et territoriales entre le Grand Londres et les provinces anglaises risquent encore de s'aggraver. Donc on est dans une situation paradoxale où ce qui a mené au Brexit risque paradoxalement d'être alimenté par le Brexit. Encore une fois, tout dépend de l'accord que les Britanniques et l'Union européenne arriveront à conclure.
Mais c'est un retour à la nation. Et vous plaidez pourtant pour cela.
Alors je plaide plutôt pour une réévaluation de la place respective, des places respectives des différentes échelles. Donc il y a les collectivités territoriales ou les pouvoirs locaux qui sont absolument vitaux pour conduire la transition écologique et approfondir la démocratie participative. Les nations sont extrêmement centrale pour la redistribution et même, je dirais, l'égalité de dotation dans un monde où les écarts de revenus du capital s'aggravent. Parce que l'appartenance nationale, c'est celle qui justifie l'effort de solidarité le plus fort. C'est beaucoup plus difficile de le consentir à d'autres échelles. Et ensuite, moi, je suis aussi un Européen convaincu. Je pense que ces échelles doivent mieux s'articuler entre elles. Et l'Union européenne, elle a la vocation à produire des biens publics, notamment dans le domaine de la décarbonation et des énergies renouvelables.
Voilà, vous indiquez juste notre matinale spéciale demain matin en direct de la BBC à Londres, animée par Guillaume Herner, bien sûr. Londres, année zéro, le Royaume-Uni s'invente un destin. Ce sera son titre, avec de nombreux invités à retrouver, donc entre 7h et 9h, demain dans les matins, sur l'antenne de France Culture. Martin Legros, une question pour notre invité David Jayes.
Oui, je suis un peu étonné par votre livre est fondé sur une proposition que je trouve assez intéressante de même si parfois un petit peu schématique, avec l'idée de ranger dans des boîtes les différentes compétences. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que vous nous dites voilà, il y a une place pour la politique locale, il y a une place pour la nation, il y a une place pour les macro-politiques européennes, et il faut apprendre davantage à distribuer ces échelons. Pourquoi pas avec un enjeu que je trouve très important que vous articulez, vous reprenez la distinction que faisait Pierre-Noël Giraud entre les nomades et les sédentaires, en disant aujourd'hui le grand enjeu c'est de réarticuler les classes nomades qui ont su se projeter à l'échelle de la mondialisation et les sédentaires qui ont le sentiment d'être enfermés dans des territoires. Donc je trouve ça assez un constat très 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 juste. La seule chose c'est que votre essai porte le titre de « Slow Democracy », comme si la solution pour la démocratie était de ralentir. Or, je ne vois pas en quoi, en réarticulant peut-être un peu plus finement les niveaux d'action et de participation et de délibération collective, on va ralentir la démocratie. Pourquoi est-ce qu'il faut le ralentissement face à un monde qui s'accélère ? Il ne me semble pas que le ralentissement soit la panacée.
David Jays.
Ah, c'est une vaste question. C'est vrai que le titre était un clin d'œil au mouvement Slow Food qui est apparu en Italie dans les années 1990. Vous savez, cette grande nation gastronomique a été confrontée à une prolifération de fast-food, McDonald's et autres. Et il y a tout un mouvement culturel à la fois de gastronomes, d'intellectuels, d'artistes qui a dit, bah, non, l'Italie, c'est pas ça. On va réapprendre la gastronomie. Et la gastronomie, c'est prendre son temps, choisir les bons produits, cuisiner, etc. Et moi, je suis en bon disciple de Michael Walzer, un défenseur des sphères. Je pense qu'il y a des sphères de justice qui sont autonomes. La politique ne doit pas être complètement encastrée dans l'économie. Et la politique, la délibération démocratique, quelle que soit l'échelle où elle se pratique, nationale, locale, ça prend du temps. Et pour prendre des bonnes décisions politiques, il faut être capable de décélérer. Et donc l'idée que je défends dans ce livre, c'est que par un renforcement de la nation démocratique, mais de toutes les échelles de démocratie, on est capable d'imprimer à cette mondialisation qui accélère et qui fragmente un sain mouvement de décélération.
Mais on n'a plus le temps. C'est aussi ce que beaucoup disent aujourd'hui. Vous appelez à décélérer, à ralentir, dans le sens, et on va l'expliquer, de réapprendre à débattre, à discuter. Si on prend l'enjeu écologique aujourd'hui, il y a urgence, tout le monde est d'accord là-dessus, on n'a plus le temps. C'est encore ce que répétait le candidat Europe Écologie Les Verts à Paris, David Béliard.
Mais en 2001, on a ouvert un nouveau cycle politique qui était marqué par l'alliance entre le Parti Socialiste et les Verts, qui a été portée d'ailleurs avec courage par Bertrand Delanoë. Il y a eu un certain nombre d'avancées, de transformations de la ville. D'ailleurs, ces transformations, elles ont été portées par les écologistes. La piétonnisation des berges de Seine, portée par les écologistes depuis 1989. On a dû batailler pendant 30 ans. On n'a plus 30 ans. Maintenant, il faut agir et il faut
vous
agir.
Vous trouvez qu'elle
maintenant.
Elle va pas assez loin? Expliquez-moi votre
maintenant.
Différence.
Il faut transformer véritablement les choses. On ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, parler de piétonnisation de la ville en ne parlant uniquement que des arrondissements centraux. Moi, ce que je souhaite, c'est offrir à tous les arrondissements et notamment aux arrondissements qui sont les arrondissements les plus populaires, eh bien oui, des zones piétonnes. Ce que je souhaite, c'est protéger nos enfants en piétonnisant les abords des 300 écoles qui sont aujourd'hui les écoles les plus polluées. Ce que je souhaite, c'est sortir de la relation avec l'ensemble des lobbies, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire, eh bien oui, je me bats pour le climat, et de l'autre continuer à avoir du sponsoring, par exemple pour Ferrero et Nutella pour les illuminations de Noël. Non, il faut sortir de cette logique, il faut de la cohérence.
Voilà, donc là on a un candidat écologiste, on est dans le temps des déclarations d'intention, hein, mais qui dit néanmoins que la maire de Paris actuelle, Anne Hidalgo, ce qui a été fait par cette majorité municipale est bien, est bon, mais pas assez vite. On n'a pas été assez loin pour l'instant. Et il veut, lui, accélérer cette procédure, accélérer la mise au cœur de la vie publique à Paris de cette question écologique. Est-ce qu'il a tort ou raison?
Écoutez,
sur le tempo.
Il y a deux expressions dans le débat public en ce moment qui m'agacent particulièrement et j'aimerais qu'on arrive à les déminer. C'est celle de crise climatique, parce que nous ne sommes pas en crise. La crise suggère l'idée que c'est un processus réversible. Or, la dégradation de la biosphère, elle est en quelque sorte irréversible. La question, c'est celle de notre adaptation, c'est de la limitation, c'est peut-être de produire des effets bénéfiques d'ici 50 ou 60 ans, mais le processus enclenché est irréversible. Et l'autre expression qui m'agace particulièrement, c'est celle d'urgence écologique, comme si nous avions 5 ans, 10 ans. Alors, parfois, on entend même des dates fantaisistes, on nous prédit la fin du monde en 2034. Ce sont des discours délétères parce qu'ils alimentent la panique, ils alimentent l'inquiétude collapsologique. Or, je crois que face à ce défi écologique, mais on pourrait dire la même chose pour la démocratie d'ailleurs, il faut agir avec méthode et avec raison. La transformation écologique qu'il faut conduire, elle suppose une mutation totale de nos modes de vie, de nos façons d'habiter, de nos façons de nous déplacer, de nos façons de produire, et je dirais même, Martin Legros, de nos façons de penser. Ce n'est pas par des injonctions à l'accélération et à la panique que nous y arriverons, mais au contraire, par une délibération et une formation, une information de chacun aux enjeux de cette transformation. Si on fait ça dans la panique, si on suscite de l'inquiétude, on risque de provoquer des réactions qui seront contraires à celles que l'on cherche à obtenir.
David Jayes, pendant longtemps, le capitalisme et la démocratie ont été amarrés, notamment durant cette période des 30 glorieuses, entre 45 et 75. Puis, les deux, démocratie et capitalisme, ont commencé à divorcer, lentement mais sûrement, avant d'en arriver à l'acte de divorce. Pourquoi ces deux-là n'ont pas réussi sur le long terme à s'accorder? Est-ce que vous diriez surtout aujourd'hui qu'ils sont totalement incompatibles et qu'un autre capitalisme démocratique est impossible?
Alors effectivement, l'expression capitalisme démocratique qui a été forgée par le sociologue allemand Wolfgang Streck est extrêmement importante pour comprendre la période des 30 Glorieuses, puisque c'est une époque de forte croissance, de forte pression industrielle aussi sur l'environnement. Mais cette forte croissance alimente un progrès social, puisqu'il y a un développement de la sécurité sociale, il y a des salaires qui augmentent, il y a une négociation salariale dans les entreprises qui se passe bien, et tout ça est en quelque sorte régulé par des États-nations qui sont forts. Et à partir de la fin des années 60, effectivement, on a un désajustement géographique, bien sûr, entre un capitalisme qui se mondialise, ou plutôt qui se remondialise, puisqu'on avait déjà eu une première mondialisation à la fin du 19e siècle, et une démocratie qui, elle, reste nationale. Mais on a aussi un discours conservateur sur la surchauffe à la fois de l'économie et de la société. Surchauffe de la société parce que mai 68 est passé par là, et il y a des intellectuels comme Michel Crozier, Samuel Huntington, même Raymond Aron qui disent la société est de moins en moins gouvernable, donc il va falloir la refroidir. Et puis discours sur la surchauffe économique, puisqu'on est entré dans une crise profonde effectivement du modèle keynésien. On est en stagflation, c'est-à-dire pas de croissance et une inflation, et donc il y a des économistes néolibéraux qui disent il va falloir refroidir l'économie, et pour ce faire, confier les pouvoirs de politique économique à des agences indépendantes. Et donc, petit à petit, on a une dérive des continents entre la démocratie et le capitalisme, un cycle néolibéral qui dure une quarantaine d'années à peu près, à la fin duquel nous arrivons en quelque sorte au port, nous arrivons au terme de ce cycle, et nous ne comprenons les cycles historiques souvent que quand nous arrivons à leur terme. Et ce cycle, je crois que pour bien comprendre la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il faut en faire l'archéologie la plus minutieuse.
Et on est déjà entré dans un nouveau cycle pour vous, très clairement?
Je pense que nous sommes dans la zone de turbulence et de friction propre au changement de cycle. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qui nous arrive, parce que nous sommes, et c'est passionnant en même temps et un peu angoissant, en train de basculer dans un autre cycle. Vous voyez bien qu'on ne pourra pas simplement réencastrer la démocratie dans le capitalisme, parce que l'équation du capitalisme démocratique des 30 Glorieuses, c'était la croissance, et donc un choc industriel sans précédent, finance le progrès de la protection sociale et de la vie démocratique. Aujourd'hui, on est dans un monde où la croissance risque de ralentir. On est dans un monde de pression sans précédent sur les équilibres géo-écologiques. Donc on peut plus simplement mettre une équation à deux termes entre capitalisme et démocratie. Il y a un troisième terme qui est celui de la soutenabilité qui doit être introduit dans l'équation. Et toute la question que nous devons nous poser dans ce cycle dans lequel nous entrons, c'est comment équilibrer une prospérité économique, laquelle ? La vie démocratique que nous devons préserver, elle est notre bien le plus précieux, et la soutenabilité environnementale.
Martin Legros, une question pour David Jayes.
Alors je ne sais pas si c'est tout à fait une question. Moi, ce qui me semble, c'est que vous dissociez la démocratie et le capitalisme. Or, il me semble que le capitalisme est en proie à des phénomènes comparables à celui à des phénomènes politiques en réalité comparables à celui de la démocratie. Je prends pour exemple la formule qu'avait eue le politiste Moïsis Naïm, politologue très intéressant, qui avait publié un essai qui s'intitulait La fin du pouvoir. Et il montrait en réalité que aussi bien dans les États que dans les églises ou dans le capitalisme, les dirigeants avaient perdu le pouvoir. Il disait par exemple Netflix, c'est extraordinaire, c'est la conquête d'un espace économique en quelques années et qui fait tomber les plus grands. Trump, c'est quelqu'un qui n'était pas un politologue et qui fait tomber le plus grand parti des États-Unis. Et donc le pouvoir est de plus en plus fragile, disait-il. Il me semble que depuis le constat qu'il a fait, qui était assez juste, il disait, pour reprendre la formule machiavélienne, le pouvoir aujourd'hui est plus facile à prendre, plus facile à perdre, mais plus difficile à exercer. Et ça vaut dans toutes les sphères. Or, il me semble que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est pas uniquement que le pouvoir le pouvoir est devenu fragile, c'est que en réalité, on a des concentrations de puissance extraordinaires. Regardez, en politique, Trump, c'est une puissance il décide de formuler des sanctions contre l'industrie automobile européenne. D'un jour, il décide de prendre des sanctions contre un État. Donc, une concentration de puissance énorme et pourtant un pouvoir d'autant plus fragile que cette puissance est concentrée. Et il me semble que ce décalage entre pouvoir et puissance traverse en réalité, c'est pas uniquement la démocratie contre le capitalisme, c'est dans tous les ordres. La mondialisation veut dire qu'il y a des concentrations de puissance, mais qu'il n'y a pas encore des pouvoirs capables de réguler ces puissances.
David Jayze.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que moi je disais que durant les Trente Glorieuses, l'État-nation, c'était l'habitacle qui permettait de réconcilier un capitalisme qui par nature est toujours mondial, puisque le capital se déplace très vite, le taux d'épargne peut être supérieur au niveau d'investissement dans un pays, et donc on va investir dans des projets à l'extérieur. Et l'État-nation, c'était le système qui permettait de faire coexister les deux. Aujourd'hui, on a effectivement le sentiment qu'il y a un désajustement entre le pouvoir et la puissance, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ajouterai une chose aussi, c'est le sentiment d'une crise profonde de la démocratie représentative. C'est-à-dire que les gens ont le sentiment que par rapport aux Trente Glorieuses, années durant lesquelles elles délivraient en quelque sorte du progrès social, de la mobilité, de l'ascension, la démocratie représentative et donc les mandataires, hein, les élus, les gouvernements, ne délivrent plus cette promesse démocratique. Et ce qu'on appelle populisme, je dois vous avouer que je suis de plus en plus embarrassé et même exaspéré par ce terme qu'on utilise sans arrêt dans le débat public, mais moi je le comprends d'abord comme le sentiment que les formes actuelles de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie représentative, ne sont plus capables de prendre en charge les défis du temps. Et donc il y a la recherche d'une façon plus efficace de reprendre le pouvoir, et ça prend effectivement des traits pas toujours très sympathiques, de l'homme fort, de la désintermédiation, de la montée aux extrêmes. Voilà.
Il y a eu confiscation du pouvoir aux yeux de beaucoup, et surtout de cette capacité que devraient avoir les États aujourd'hui à diriger l'économie et donc la vie de leurs citoyens. L'exemple de la crise grecque, vous y revenez, David Jayze, il est important et intéressant. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce du film de Costa Gavras, Adults in the Room.
L'annonce de votre référendum rend caduque toute discussion avec vous. Nous poursuivrons sans vous.
Le référendum en Grèce est une affaire intérieure, et donc il n'affecte en rien nos discussions.
Nous voulons que notre peuple donne son avis sur les débats que nous avons.
Oui, mais est-ce à l'opinion publique de trancher sur des questions économiques dont elle ne connaît pas les enjeux ?
Est-ce que le peuple sait réellement quels sont ses intérêts ?
Nous sommes persuadés que notre peuple a la capacité de réfléchir et de décider seul de ces questions. La seule requête que nous avons aujourd'hui pour vous, Mario, serait de prolonger les crédits accordés à nos banques jusqu'au lendemain du référendum. Après tout, c'est la vocation de la BCE.
Il n'en est pas question. Les décisions de la BCE sont indépendantes de la politique.
Voilà, vous dites que c'est pas simplement l'expression démocratique qui a été un moment confisquée, mais c'est aussi la réflexion démocratique et en son cœur, celle autour du capitalisme qui est devenu un sujet complètement ou un objet complètement à part. Hein.
L'épisode du référendum grec de 2015, dont vous avez donné un extrait dans le film de Costa Gavras, il illustre très bien ce qu'un économiste américain qui s'appelle Danny Roderick a appelé le triangle d'incompatibilité. Alors, je vais faire très simple. Le triangle de Roderick, ça veut dire que vous pouvez pas avoir à la fois des États-nations indépendants, une démocratie qui fonctionne bien, et ce qu'il appelle, lui, dans son vocabulaire, une hypermondialisation. Par exemple, la participation pleine et entière à une zone monétaire supranationale. Il faut, en quelque sorte, choisir deux des trois termes de l'équation, vous voyez. Et on s'en rend compte pendant les crises. La Grèce, en 2015, elle a été confrontée au choix, au dilemme cornélien. Soit elle restait dans l'euro, auquel cas elle devait respecter certaines des règles qui étaient édictées par les autres membres de la zone euro, et ce qu'on a appelé la Troïka. Soit elle mettait en œuvre la volonté de son peuple, qui s'était exprimé durant le référendum, auquel cas ça aurait entraîné de facto une sortie de l'euro. Donc vous voyez que ce sont véritablement des situations tragiques. Pour autant, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas d'impasse absolue. Il est possible de faire coexister une mondialisation maîtrisée avec des États-nations et la démocratie, à condition justement que cette mondialisation soit maîtrisée.
À condition aussi que les nations redeviennent fortes. Cet adjectif, vous l'employez, même s'il est un peu inquiétant aujourd'hui, et que quand même depuis plus d'un demi-siècle, on a cessé d'établir des garde-fous, et l'Union européenne, l'Europe en est un. Vous plaidez pour le retour d'une nation forte dans le sens nation ayant les moyens de répondre, les marges de manœuvre, pour répondre aussi à ses inquiétudes par son action.
Bah, la nation démocratique, ça peut être un formidable échelon de puissance publique pour conduire des politiques publiques.
C'est quoi une nation démocratique pour vous ?
Une nation démocratique, c'est une nation dans laquelle, c'est une communauté politique dans laquelle les dirigeants sont librement élus, qui portent très haut à la fois la souveraineté démocratique, mais aussi la liberté civile, l'état de droit en quelque sorte, et un certain niveau de redistribution sociale. Donc c'est un modèle très particulier qui n'a rien à voir avec la nation ethnique dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui. Et pourquoi diable faudrait-il laisser aux nationaux populistes le monopole du langage sur la nation, alors même que c'est une idée initialement et un concept et une forme politique progressiste qui a permis des progrès sociaux gigantesques? Moi je ne comprends pas. Et je vais vous dire une chose, les classes moyennes et les classes populaires partout en Europe sont extrêmement attachées à la nation. On le voit dans les enquêtes World Value Survey. Donc quand les nationaux populistes sont les seuls à relever le drapeau tombé à terre, il ne faut pas s'étonner qu'une partie de ces classes moyennes et ces classes populaires se portent sur cette offre politique.
Mmh. Aujourd'hui, il y a un populisme de droite et un populisme de gauche, tel que théorisé par Chantal Mouffe ou Ernesto Laclau. Vous dites qu'il pourrait y avoir aussi une nation de droite et une nation de gauche ?
Il y a toujours eu de toute façon des acceptions de gauche et de droite de la nation. Et puis vous avez deux modèles qui se sont affrontés à la fin du 19e siècle. D'un côté, la nation démocratique française défendue par Renan ou Fustel de Coulanges. Il dit que c'est un choix politique, une volonté de vivre ensemble face à la nation ethnique allemande défendue par l'historien Bomsen qui disait l'Alsace a vocation à faire partie de la nation allemande parce que les Alsaciens sont de souche germanique et parlent allemand. Et là, vous voyez que vous avez deux conceptions un peu outrées, d'ailleurs, un peu romantiques l'une comme l'autre, qui se sont affrontées pour les besoins de la cause. Moi, je défends une conception beaucoup plus déflatée, si j'ose dire. C'est-à-dire que je défends une conception non idéologique et non imaginaire de la nation. Je cherche à montrer un peu à la manière des sociologues et des historiens. Relisez le livre de Marcel Mauss, par exemple, formidable, qui s'appelle La Nation. La Nation, c'est d'abord des mécanismes de socialisation. On pourrait dire, pour simplifier, que la nation, c'est une société qui habite dans un lieu. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des sociétés qui sont des communautés vivantes et qu'il y a des lieux et qu'au fond, tout ça n'est pas substituable à l'envie. Et je pense que c'est extrêmement important si on veut sortir de la crise démocratique dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Et alors justement, au cœur de votre slow démocratie, David Jaïz, il y a cette idée de réapprendre comment, quels outils mettons en place pour permettre à cette discussion démocratique et collective d'advenir.
Ben, je pense qu'il faut aujourd'hui un subtil dosage entre la démocratie représentative, parce que vous pouvez pas gouverner des sociétés complexes avec des dizaines de millions de citoyens sous la forme d'une démocratie directe permanente. C'est juste impossible. Il y a un coût de complexité qui est trop élevé. Mais je pense qu'on peut faire des progrès significatifs en matière de démocratie de construction. Je préfère d'ailleurs ce mot à démocratie participative, parce que démocratie participative, parfois, ça fait un peu gadget. Ça fait, on vous consulte et puis ensuite, cause toujours, tu m'intéresses et on prend les décisions sans les citoyens. La démocratie de construction, qui est défendue par exemple par Joe Spiegel, le maire de Kingersheim, c'est vraiment l'idée que on associe à la fois les élus, les citoyens et les experts et qu'on arrive ensemble à produire de la rationalité qui permet de fabriquer les bonnes politiques publiques.
Merci beaucoup à vous, David Jaïz, et merci à vous, Martin Legros. Beaucoup de contributions donc à retrouver dans cette nouvelle collection et ce premier ouvrage, 20 penseurs pour 2020. On y retrouvera notamment une critique du capitalisme numérique, du capitalisme de surveillance par Shoshana Zuboff, l'une des penseurs ou penseuses chouchou de Barack Obama aujourd'hui, telle qu'il la recommande, et beaucoup d'autres. Ça vient de tous les pays. Ce sont des traductions donc d'articles parus dans la presse. Cette collection, vous allez chaque année
qu'il y aura un 21 penseur pour 2021 et ainsi de suite, avec toujours l'idée, oui, de faire entendre la manière dont les philosophes aussi inventent des des idées en réaction à des événements et que c'est face à l'imprévisibilité de l'événement que parfois la pensée est la plus féconde.
Voilà, et on voit aussi qu'une pensée se construit à partir des lectures d'autres penseurs qu'on peut avoir. On l'a bien vu avec vous, David Jaïs, un peu votre capital culturel et intellectuel à travers cette discussion. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces idées qui comptent pour vous aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Bruno Barada, Jean-Christophe Brianchon et Oriane Delacroix pour la programmation, à Henri Leblanc pour la coordination de cette émission, à Laura Dutèche-Pérez avec Sophie Marty et François Bréus pour la préparation de ces deux grandes tables culture et idées. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien. Très belle journée à tous sur France Culture.